Radio Kapi. Oh, Kapi. Merci à tous d'écouter Radio Kapi et bienvenue à ce journal. Les territoires d'Arou et de Mahagui touchés par le coronavirus. Deux personnes ont été testées positives selon le ministre provincial de la Santé. Les patients sont des membres de l'équipage des camions en provenance de l'Ouganda. 13 000 décès dus au paludisme ont été enregistrés en 2019 sur un ensemble de plus de 21 millions de cas, faisant ainsi du paludisme la première cause de mortalité en République démocratique du Congo. La déclaration est de Médecins sans frontières. Quel est l'apport du cadre de concertation de la société civile du Kasaï central dans la prévention contre le coronavirus? Si vous restez avec nous, le président de cette organisation tentera de répondre à cette question. Il est notre invité. Encore une fois, bienvenue à l'écoute de ce journal. À Nitouri, deux cas positifs de coronavirus ont été identifiés hier vendredi en territoire de Mahagui et d'Arou. Selon le ministre provincial de la Santé, les patients sont des membres de l'équipage des camions en provenance de l'Ouganda. Ce sont les autorités ougandaises qui ont donné l'information. Il ajoute que plus de 20 contacts, dont les agents de l'État, sont mis en quarantaine pour la prévention contre cette pandémie. Isaac Remo-Yopé, qui s'y trouve, nous en parle.
Le premier cas a été signalé au poste douanier de Mahagui. Il s'agit d'un conducteur de camions transportant des marchandises venant de l'Ouganda. Après l'alerte du gouvernement ougandais aux autorités congolaises, les chauffeurs et les deux membres de l'équipage qui se trouvaient encore à Mahagui ont été aussitôt rapatriés en Ouganda où une ambulance les attendait, affirme le ministre provincial de la Santé. Environ 10 personnes composées essentiellement des agents des différents services de l'État commis à la frontière sont mises en quarantaine pendant 14 jours pour voir s'ils vont manifester les symptômes de COVID-19. Docteur Patrick Aramoura indique qu'un autre cas positif toujours d'un chauffeur en transit a été identifié à environ 30 km à l'intérieur du territoire d'Arou. Il est en observation ainsi que 17 autres personnes qui étaient en contact avec lui. Cette nouvelle des cas positifs de coronavirus a créé la panique hier, surtout à Mahagui. L'administrateur du territoire a calmé la population tout en la rassurant que des dispositions sont déjà prises. Le ministre provincial de la Santé indique qu'une équipe sera déployée dans ces deux entités pour le suivi de ces cas. De Mahagui, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Parlons toujours santé, donc, et cette fois-là, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, depuis le début de l'épidémie de coronavirus déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 416 cas confirmés. Au total, il y a eu 28 décès et 49 personnes guéries. 197 cas suspects en cours d'investigation, 22 nouveaux cas confirmés, dont 21 à Kinshasa et 1 à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Une nouvelle personne sortie guérie, 3 nouveaux décès, des cas confirmés, 136 échantillons testés, 260 patients en bonne évolution. 6 provinces sont touchées jusque-là. Kinshasa, 403 cas. Nord-Kivu, 5 cas. Sud-Kivu, 4 cas. Ituri, 2 cas. Kwilu, 1 cas. Haut-Katanga, 1 cas. Les personnes en situation d'handicap se disent abandonnées par rapport aux mesures de prévention contre le Covid-19. Les structures d'encadrement de cette catégorie des personnes se disent exposées car rien n'est fait en leur faveur. Elles manquent de tout et vivent sans aucune protection. D'où ce cri de détresse du représentant interprovincial de l'Organisation mondiale des personnes vivant avec handicap dans l'espace Grand Katanga. Faratabou est au micro de Jean Gando.
La personne en situation de handicap est vraiment dans des difficultés par rapport à l'état d'urgence. Comme vous le savez, l'article 49 de la Constitution dispose que nous puissions bénéficier d'une protection spéciale en cas d'épidémie ou pandémie. Parce que nous, pour nous déplacer, il faut les cannes, il faut les béquilles, les aveugles. Vous savez que cette histoire de distanciation, il n'y a pas moyen que le guide soit à un mètre. Mais là, le gouvernement devait vraiment songer à nous, en nous donnant ce qui est nécessaire pour laver les mains, les gels hydro, les masques et tout. Mais à ce niveau-là, il n'y a rien qui est fait. C'est pourquoi je profite pour lancer un appel à l'autorité, son excellence, monsieur le gouverneur, pour voir dans quelle mesure il peut nous venir en aide en nous donnant les nécessaires. Parce que nous ne savons pas nous déplacer sans béquilles. Or, les virus, on nous dit que ça fait longtemps sur du métal. Et nous déplacer, il faut toucher le métal. Il y a même ceux qui se déplacent à même le sol. Donc, il y a vraiment urgence et il y a une très grande vulnérabilité par rapport à la pandémie.
Le déconfinement progressif de la commune de la Gombe a donné l'occasion de la reprise de la vie normale dans cette municipalité. Les vendeurs ambulants et les enfants de la rue ont réinvesti le centre-ville de Kinshasa sous l'œil impuissant des autorités. Un constat d'Enoch Matondo.
Rebecca est une fille de la rue, apparemment retardée mentale. Cette jeune mère d'environ 22 ans a regagné le trottoir du boulevard du 30 juin à quelques mètres de la chancellerie des ordres nationaux. Elle dit être sous la protection de quelques militaires qui travaillent dans les environs.
Je m'étais cachée là-bas. Je suis rentrée seule. Non, on ne nous chasse pas. C'est le monsieur qui habite cet étage qui nous donne l'argent parfois pour acheter de la nourriture. Les soldats qui sont ici nous connaissent. Lorsque les policiers nous avaient arrêtés, ces soldats qui travaillent ici leur ont demandé de nous relâcher.
À plusieurs mètres de là, Samuel Kavouji, enfant de la rue également, ensemble avec ses 11 amis, explique comment il mène une nouvelle vie d'errance.
Nous étions cachés à la cité, j'étais à la commune de Kinshasa. Nous sommes entrés en disant que nous partons chercher quelque chose à manger en ville et repartir à la cité le soir. Ces militaires nous connaissent. Nous sommes entrés ce matin seulement par la voie officielle. Au retour, le soir, nous donnons à ces policiers un peu de cigarettes.
Notre tour nous a permis de voir plusieurs autres marchands ambulants, cambistes, pousse-pousseurs et même motocyclistes. Ces derniers disent ne pas travailler au centre-ville, mais viennent plutôt déposer les clients qui sont pour la plupart des militaires. Cette situation assez étonnante se passe malheureusement sous la barbe des forces de l'ordre.
Rendons-nous à Goma, journée mondiale de lutte contre le paludisme. Celle-ci reste la première cause de mortalité en République démocratique du Congo. L'annonce est de l'organisation Médecins sans frontières à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme ce 25 avril. Dans un communiqué de presse publié à cette occasion, MSF indique que plus de 13 000 décès dus au paludisme ont été enregistrés en 2019 sur un ensemble de plus de 21 millions de cas. Cette organisation estime qu'il faut travailler sur la prévention, le diagnostic et le traitement afin de réduire les conséquences du paludisme, pourtant évitable. Rosalie Zawadi.
Les plus affectés par les paludismes en RDC sont les enfants de moins de 5 ans. Les zones rurales sont les plus touchées en raison de l'insécurité et des difficultés à accéder aux structures de santé. En 2019, MSF a traité gratuitement plus de 750 000 malades du paludisme sur l'ensemble des 10 pays, selon son communiqué. Au Nord Kivu, dans la zone de santé des Mweso et les territoires de Walikale, les paludismes figurent parmi les 3 pathologies les plus fréquentes. Il est la deuxième cause des décès à Mweso, cette zone de santé où justement Médecins sans frontières a pris en charge plus de 204 000 personnes à travers les 22 structures de santé que l'organisation appuie. Une zone où l'approvisionnement en médicaments est en plus difficile. Dans la lutte contre le paludisme, les infrastructures et les ressources humaines font aussi défaut. Notons que le paludisme reste un fardeau économique sur les ménages démunis. Plusieurs initiatives sont menées dans le sens de sa prévention, notamment la distribution des moustiquaires imprégnés aux ménages. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Poursuivons ce journal. Le président de la secte politico-religieuse Bundu Diamayala, né Mwandansemi, a été conduit au CNPP où il sera pris en charge par un psychiatre. Rappelons que cet ancien député a été arrêté hier vendredi en sa résidence de Makampagne dans la commune de Ngaliema après un assaut des services de l'ordre. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, le bilan provisoire de cette opération est de 8 morts et 35 blessés parmi les adeptes de Bundu Diakongo. Il ajoute que 128 détenus sont au commissariat de la police, dont 8 femmes. Et selon ces statistiques, 208 détenus au total seront transférés devant l'officier du ministère public. La police compte dans ses rangs 8 blessés. En Ituri, les troupes supplémentaires de la MONUSCO à Fataki, territoire de Djougou, c'est depuis ce vendredi où des casques bleus uruguayens sont arrivés pour la mission onusienne. C'est pour renforcer le dispositif sécuritaire dans ce territoire où des assaillants perturbent la vie des populations civiles. La société civile locale salue cette décision de la MONUSCO. Martial Kizia Biamongo.
Cette force spéciale de réserve de casques bleus et uruguayens est précisément basée à Djaïba, à environ 3 km du centre des Fataki. Sa mission est de venir en appui à la police congolaise et au FRDC pour sécuriser les populations de plusieurs entités victimes des exactions des assaillants de la Codeco sur la route nationale numéro 27. Avec leurs véhicules blindés, ces soldats de la paix vont ainsi organiser des patrouilles de reconnaissance dans ces villages dont les centres des Fataki plus proche de leur base. La société civile de Djougou salue ces déploiements qui, selon elle, va rassurer la population et faciliter les retours dans certaines localités environnantes de Fataki, des populations qui avaient fui les exactions des miliciens. Gilles Tsuba, président de la société civile de Djougou.
Nous remercions d'abord l'arrivée des contingents de MONUSCO dans le territoire de Djougou pour Fataki. Alors si leur présence est là, ça peut faire retourner les villageois
Pour rappel, lors de leur passage à Ditouri, la semaine dernière, le représentant spécial adjoint des Nations Unies en RDC chargé des opérations, David Grisley, et les commandants des forces onusiennes, le général Neves, avaient promis d'envoyer des casques bleus supplémentaires à Ndjougou pour renforcer les mécanismes et les capacités de protection des civils. Bounia, Martial, Kiza, Biamungo, Radio Okapi.
En Mbujimayi, les provinces éducationnelles de la province de l'Omami sont désormais autonomes. L'arrêté ministériel portant restructuration des quelques provinces éducationnelles a été signé la semaine dernière par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, dans le but de rapprocher les administrés de leur centre de décision. Des explications avec Esther Ndalafina.
Dans son arrêté, Willy Bakonga accorde deux provinces éducationnelles à la province de l'Omami, structurée en province éducationnelle de l'EPST Lomami 1 et 2. La province éducationnelle de l'EPST Lomami 1, dont le siège est basé à Cabinda, est composée de 16 sous-divisions, tandis que la province éducationnelle de l'EPST Lomami 2, basée à Moneditou, est composée quant à elle de 10 sous-divisions. L'arrêté du ministre indique que cette restructuration vient résoudre les obstacles naturels qui sont à la base des multiples difficultés dans le contrôle, les évaluations certificatives ainsi que dans la formation et la paye du personnel enseignant. Il va également mettre fin aux effets induits de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement comme facteur aggravant qui éloigne davantage les administrés de leur centre de décision. Cette restructuration réjouit les autorités scolaires de la province de l'Omami qui dépendaient administrativement depuis plusieurs années de la province éducationnelle Kasaï Oriental 1 dont le siège est basé à Mbujimayi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
L'invité. Le président du cadre de concertation de la société civile du Kasaï Central est notre invité. Jean-René Chimanga revient sur l'apport de son organisation dans la prévention du coronavirus en province. Il souligne que la société civile mène la stabilisation à Kananga et installe déjà les comités locaux de crise dans les territoires en vue d'appuyer les médecins chefs des zones dans la surveillance sanitaire.
Bonjour, monsieur Jean-René Chimanga.
Oui, bonjour.
La République démocratique du Congo est menacée par la pandémie de coronavirus. La province du Kasaï Central est déjà dans la prévention. Quelle est la part de la société civile dans cette prévention?
Oui, il est vrai que le coronavirus existe. Nous pouvons demander à toute la population de ne pas paniquer, mais surtout d'observer donc les mesures d'hygiène telles que prises par le ministère de la Santé. La société civile du Kasaï Central, après le message du chef de l'État, s'est donné à sensibiliser la population de la province du Kasaï Central, en commençant par la ville de Kananga, au territoire de Luisa, au territoire de Kazumba, aussi bien qu'au territoire de Demba, dans certains secteurs limitrophes qui constituent donc les limites avec des provinces voisines telles que la province du Kasaï ainsi que la province de l'Omami. Nous continuons toujours à faire notre travail de sensibilisation parce que dans nos secteurs et communes rurales, les dispositifs ont été pris, lesquels reposant sur la mise sur pied des comités locaux des crises pour pouvoir accompagner les médecins chefs des zones de santé et les responsables des centres de santé à bien pouvoir travailler dans ce cadre de prévention. Donc la société civile est à pied d'œuvre et même ici sur la ville, donc un comité a été renforcé auquel sont greffés des partenaires d'appui. Je pense que la société civile n'a pas croisé les bras, elle est chaque jour sur terrain pour pouvoir informer la population du danger que peut causer cet ennemi invisible.
La société civile a-t-elle des moyens pour effectivement accompagner l'exécutif provincial?
Je dirais oui et non. J'ai dit oui pourquoi? Dans le cadre de nos activités de routine, nous nous cotisons. C'est comme moi qui fais la ronde à travers trois territoires. Donc les membres de la société civile se sont cotisés pour nous prendre en charge. Mais de l'autre côté, nous devons attendre les moyens de la part des partenaires, entre autres, les gouvernements provinciaux aussi, c'est un partenaire de la société civile. Il y a des partenaires d'appui. Et s'il arrivait que la société civile arrive à la limite de ses moyens, on va à ce moment-là faire recours aux partenaires d'appui afin d'assurer la pérennité de ces actions de sensibilisation que nous avons déjà amorcées.
Comment jugez-vous les actions de prévention déjà amorcées par les autorités provinciales, accompagnées par certains partenaires à travers la province?
Ce sont des actions salutaires que moi-même je salue. Toutefois, Il est vrai que les partenaires d'appui nous accompagnent, ils ont fait leur part. Mais le gouvernement provincial doit aussi faire sa part. Vous savez que les provinces de la RDC n'ont pas les mêmes réalités. Mais il y a certaines provinces qui ont doté donc leur comité de crise des moyens conséquents pour prévenir la pandémie COVID-19. Il y en a qui ont alloué des ambulances, il y en a qui ont donné des espèces pour que cette pandémie soit vraiment donc mise hors d'état de nuire. Mais ici chez nous, avec nos petits moyens, il y a facilité de faire aussi quelque chose. Parce que nous, on ne peut pas attendre à ce qu'un partenaire d'appui puisse aller auprès d'une autorité de la place, donner un lave-main et du savon. Nous avons aussi des activités qui génèrent des recettes. Prenons le cas des marchés. Dans ce marché, il y a des personnes vulnérables. Et ces groupes vulnérables qui ont des moyens financiers réduits, qui n'arrivent même pas à se procurer cela. Mais le gouvernement ou la mairie peut chercher quand même à acheter ces lave-mains. Mettre ça au niveau du marché, c'est pour permettre à ces personnes-là aussi de suivre les mesures d'hygiène. Par contre, également, ces personnes-là ne peuvent pas croiser des bras pour dire que non, nous n'avons rien. Puisque la maladie, bien sûr, c'est la maladie. Parce que quand ça va l'attaquer, ça va demander les moyens plus que ce lave-mains qu'il est en train d'attendre qu'on lui donne gratuitement. De ce côté-là, donc, la responsabilité est partagée. C'est pourquoi nous continuons à sensibiliser. Pour dire à ces personnes aux moyens financiers réduits de faire aussi un effort, c'est-à-dire de pouvoir suivre les règles d'hygiène et surtout de chercher dans quelle mesure, s'ils n'ont pas le moyen, mais ils ne peuvent pas manquer un récipient avec la cendre s'ils n'ont pas de savon pour pouvoir s'acquitter de ces devoirs-là. Je crois que notre gouvernement doit faire aussi un effort de pouvoir donc chercher comment mettre les moyens en jeu dans le cadre de prévention. Nous n'attendons pas que le cas nous arrive pour qu'on commence à se tracasser, mais dans le cadre de prévention, on met des moyens. Et puis ces moyens, d'abord sur les plans sanitaires, qu'on renforce les dispositifs sanitaires. La province a des couloirs avec d'autres.
Monsieur Jean-René Chimanga, le plaisir était le nôtre de vous avoir dans ces studios de Radio Kapi.
Merci beaucoup, mon cher journaliste Blaise Nongala.
Le président du cadre de la société civile, donc du Kasaï central, Jean-René Chimanga, était interrogé par Blaise Ndongala Mayanda. Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Paul Badianyama était à la mise en onde, Élisée Chikota à la coordination, la supervision était de Julien Nyamoni, je me nomme Nico Kalambay. Nos programmes se poursuivent sur Radio Okapi. Dans quelques instants, vous suivrez Urban Scene avec DJ Daddy.